Radio Okapi. Parité et famille. Bonjour à tous, c'est le mois de mars, mois dédié à la femme. Parité et famille fait un zoom sur l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Autrefois relégué au second plan, aujourd'hui la femme est au cœur de tout ce qui se passe autour d'elle. Un réveil qui a occasionné son émergence dans tous les domaines. Nous allons écouter quelques-unes d'entre elles qui ont choisi l'entrepreneuriat. Comment l'homme accompagne la femme dans le leadership féminin? C'est aussi l'une des questions qui sera soulevée dans ce magazine qui touche aux questions liées au genre et aussi à la famille. Nous irons aussi à Kisangani pour voir les stratégies mises en place pour mobiliser les hommes et les femmes à la promotion du leadership féminin. Bienvenue à tous.
Vous êtes une femme leader? Vous connaissez une femme leader?
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmeleaderrdc@gmail.com.
Encore une fois, bienvenue dans Parité et Famille. Dans quelles conditions le réveil de la femme congolaise s'est passé, particulièrement dans les années 80? Hélène Dombé-Sita raconte, c'est une femme politique congolaise de renom, députée nationale honoraire, ancienne ministre, vice-présidente nationale de la Convention des démocrates chrétiens. Elle est également présidente de l'UFEKIN, Union des femmes de Kinshasa. Elle retrace son parcours et donne son avis sur le leadership féminin.
Moi, j'ai été élue en 87 comme députée, mais à l'époque, on nous appelait commissaire du peuple. Déjà, à l'époque, c'était pas facile, même si le droit de vote nous a été acquis en 67, mais je crois que la femme a toujours lutté pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Parce qu'en 67, même avec la politique de l'émancipation, on a vu des femmes évoluer. Ça, c'était vraiment par la volonté du président de la République de l'époque, le président Mobutu, qui en a fait sa lutte. Donc, on a vu les mamans Nzuzi, on a vu beaucoup de mamans qui ont été nommées bourgmestres. Au comité central, on a vu aussi plusieurs femmes qui ont occupé des postes importants. Mais pour les postes électifs, c'est pas facile. Même à l'époque, on a dû vraiment se battre sur le même pied d'égalité que l'homme, que nos partenaires, pour être élus. Vous savez qu'à l'époque, on était dans un parti unique. On te jugeait selon le degré de militantisme. Mais sur le terrain, il fallait vraiment prouver de quoi vous étiez capable à l'époque. Et ça, nous l'avons fait. En 87, il y a eu, dans la ville de Kinshasa, quelques dames quand même. Hein. Je citerai même Mama Soki, moi-même et deux autres. Et d'ailleurs, on a dû refaire pour la ville de Kinshasa, parce qu'il y a eu que les gens de Bakongo et les gens de Bandundu. Alors Mobutu, qui était un vrai nationaliste, a voulu que Kinshasa soit le reflet du pays. Donc, il fallait que toutes les régions soient représentées. C'est ce qui a été fait. Et puis, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on était peut-être 8 femmes sur 20 et quelques qu'on était députés de la ville de Kinshasa. Donc, au total, sur l'ensemble du pays, on n'a pas dépassé les 8%. Et ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. C'était pas facile de se lever, de parler devant un parterre d'hommes macho, vous savez, ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas évolué du tout. Je parle de mon époque, 87, et aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Je me rappelle, je passe un peu rapidement, ici, en 2006, lorsque j'ai été réélu, j'ai été élu président de la commission socioculturelle. Il y avait des lois qui ne passaient pas de par la volonté de nos partenaires, des députés hommes, qui ne voulaient pas faire passer ces lois-là. Je pense à la loi sur la parité, qui restait pratiquement longtemps sans être votée, parce que les hommes ne voulaient pas. Mais j'ai trouvé que c'était quand même pas bien de leur leur part, parce que même si aujourd'hui, avec la loi qui avait été à l'époque, hein, des années 2008-2009, lorsque on a voté la loi sur les élections, là encore, c'était la bagarre, parce que nous, femmes qui étaient là-bas, on a voulu absolument que les partis politiques puissent ouvrir les listes aux femmes. Donc on voulait que s'il y a 12 personnes, qu'il y ait au moins 6 personnes, c'est ça la parité. Et on voulait vraiment que ça se figure dans la loi sur les élections. Mais cela a été une guerre. Finalement, on a opté sur 30%. Et encore là, même si aujourd'hui, on opte sur 30%, mais il faut encore que cette femme-là se fasse élire sur le terrain. Ça, c'est une autre paire de manches. Même si aujourd'hui, on accepte qu'il y ait parité, mais la femme sur le terrain éprouve toujours des difficultés pour se faire élire. Parce qu'il y a des préjugés, il y a la discrimination même, les femmes entre elles.
Est-ce que la relève est assurée par rapport à cette problématique du leadership féminin?
La relève est assurée, ça je peux vous le dire, parce que j'assiste à plusieurs conférences, manifestations, plusieurs conférences de renforcement de capacités. Je vois comment les femmes s'intéressent aujourd'hui à la gestion de la chose publique. Mais ce qui manque aujourd'hui à la femme, ce sont les moyens, ce sont les réseaux professionnels, les réseaux politiques, les réseaux d'affaires qui manquent à la femme, parce que la femme n'a pas les moyens de sa politique.
Hélène Dombé-Sita, présidente de l'UFEKIN, Union des femmes de Kinshasa, au micro de Jean-Marc Matouaki.
Radio Okapi, parité et famille.
Lina Mouvaro est une jeune dame qui tient et gère un restaurant Cordon Bleu situé dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Elle évolue dans ce domaine depuis plus de 10 ans. C'est son regretté père qui l'a incitée et motivée à exploiter son talent dans l'art culinaire et dans les affaires. Elle retrace son parcours et donne aussi son avis sur les leaderships féminins.
Le leadership femme, ici on commence à être valorisé et puis il faut aimer ce que l'on fait. C'est ça la clé de toute chose. Quand on aime ce qu'on fait, on a la tête sur les deux épaules, on regarde devant, on ne tient pas compte de ce qui se passe à gauche, à droite. C'est vrai que les critiques, il faut toujours prendre en considération. Les éloges aussi, mais qui ne doivent pas nous faire la tête haute ou bien la tête bombée. Mais au moins, on sait regarder devant et avancer.
Quel peut être le rôle des hommes qui sont autour de vous pour permettre à la femme, cette femme que vous êtes, d'émerger?
La première des choses, c'est de considérer la femme. Parce que moi, je me dis, l'homme a été créé, mais la femme a été tirée. C'est-à-dire, sans l'homme, la femme ne peut pas émerger. Donc, tu dois avoir une bonne compagnie. Quand tu as 10 hommes tout autour de toi, ces hommes-là doivent t'aimer au départ et aimer ce que tu fais. Et tu dois avoir des bonnes personnes dans le sens où tu as des gens qui arrivent à décortiquer ou bien à sortir les talents que tu as. Moi, je vais donner l'exemple. Je savais faire la cuisine, mais je ne savais pas que c'était un talent. Et j'ai toujours dit, dans ce que je fais, c'est parti d'une passion à une profession. Parce que c'était un plaisir pour moi de rester dans la cuisine, faire à manger pour les gens, faire à manger pour mon papa. Et tellement que je le faisais avec amour, avec tout mon cœur et mon âme, ce monsieur-là, mon père, a eu à ressortir ce que j'avais en moi. Donc par là, je veux dire qu'il faudrait seulement se faire entourer de bonnes personnes et qui savent te dire que, regarde, tu as un talent caché et qui savent ressortir ce que tu as en toi. Il y a un adage qui dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Et moi, j'ai toujours dit que l'homme, c'est l'autorité, mais la femme, c'est le pouvoir. Si la femme congolaise arrive à reconnaître qu'elle est un pouvoir pour la nation, pour sa famille, pour le monde, tout va marcher.
Comment reconnaître ces pouvoirs-là? Qu'est-ce qu'il faut?
C'est pourquoi j'ai dit, il faut s'entourer de bonnes personnes. Parce que si déjà toi-même, tu n'arrives pas à ressortir ou soit à donner les meilleurs de toi, tu dois te faire accompagner de bonnes personnes qui savent décortiquer, qui savent te ressortir ce que tu as en toi, ce qu'il y a de caché en fait. C'est par là que je dis que l'homme a été créé et la femme a été tirée. Pour dire que la femme, pour qu'elle émerge, l'homme a un grand rôle aussi. Mais le rôle de l'homme est caché par rapport au rôle de la femme.
Les rêves d'Elina, après tout ce qu'elle fait depuis plus de 10 ans.
Le rêve, je suis pas encore arrivée, je suis en mi-chemin, c'est d'avoir un grand restaurant dans la capitale. C'est vrai que là où je suis, c'est déjà quelque chose de grand, et je me dis j'ai déjà fait un pas, mais on avance. On avance, le rêve d'avoir un grand restaurant dans la capitale, le rêve d'avoir des restaurants en dehors du Congo et beaucoup plus garder nos originalités. Donc si ce cordon bleu doit sortir du Congo aujourd'hui, c'est pour garder ses originalités. Ou on peut me retrouver au Canada, mais avec un bon pondo à Limbondo. On me retrouve au Canada avec un bon poisson ya bitoyo. On me retrouve en Belgique avec un bon possé, le makelele. C'est de ça que je rêve.
Une autre femme entrepreneur, c'est Patricia Nzolantima. Elle vient de lancer un projet dans les transports. Il s'agit de la mise en circulation des voitures Ubiz Cab, des véhicules copiés sur le modèle américain. À quels besoins répond-elle? On l'écoute au micro de Nana Bolodjoa.
J'étais en formation aux États-Unis et notre formateur nous expliquait comment est-ce qu'il fallait innover, comment créer une nouvelle classe moyenne émergente et aussi comment participer à l'émergence d'un pays. Et par rapport à ça, il disait, quand vous arrivez dans un pays, la première chose que vous allez remarquer, si vous voulez vous lancer, qu'est-ce qui ne marche, qu'est-ce qui est en chantier. Et j'ai réalisé en ce moment, c'était en 2012, que quand on arrivait à cette époque, on avait des problèmes de trouver des taxis, comme ça se passe dans les aéroports internationaux, comme ça se passe partout dans d'autres pays. Donc j'ai pensé à reproduire l'idée de Uber au niveau de la RDC, mais tout en changeant carrément le concept, mettre la femme. Comme ça faisait 10 ans que j'évoluais dans l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, il fallait qu'il y ait une continuité dans mes idées. Donc je me suis dit, je vais faire des taxis conduits par des femmes la journée et le soir par les hommes.
Je ne sais pas comment est-ce que vous entrevoyez le projet ici à Kinshasa, parce qu'il faut dire que si le projet Uber marche bien aux États-Unis, ce sont des voitures, des particuliers qui sont connectés à un réseau ou à une centrale, on va dire, pour pouvoir prendre des clients. Comment est-ce que ça va se passer à Kinshasa? Est-ce que ce sont des voitures, des particuliers que vous contactez? Ce sont des véhicules ou des voitures que vous avez achetées, que vous mettez à disposition des femmes qui doivent être des conductrices de ces voitures-là?
D'abord, on ne pouvait pas avoir le même modèle, business model que Uber. Je voulais une référence, donc un benchmark qu'il fallait mettre sur le marché. Cette référence était qu'il fallait avoir des voitures climatisées, offrir de l'internet à nos clients, offrir de l'eau à nos clients, mais que l'étranger qui vient dans notre pays qui trouve les mêmes conditions qu'il trouve à l'extérieur. Et en même temps, l'image de nos taxis donnerait une meilleure image de notre pays.
C'est pas les voitures des particuliers,
non,
hein,
alors, c'est pas
la précision que je voulais avoir.
En fait, quand je parler de la référence que on voulait mettre, c'est que on a commencé avec nos propres voitures pour être des modèles de référence. Mais sur le long terme, ce sont les particuliers qui vont ramener leurs voitures, rentrer dans notre réseau, tout en suivant...
Le particulier qui viendra pour rentrer dans votre réseau doit répondre à certains nombres de critères.
Exactement. Okay. Ubiz Cab, il faut le dire que c'est un projet de tout un pays. Ce n'est pas le projet de Patricia. Et je pense qu'aujourd'hui, tout Congolais doit soutenir les actions qui portent à donner une autre image à l'émergence de notre pays. Ailleurs, ça se passe. Vous allez au Sénégal, ils ont plus de 300 véhicules. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Alors pourquoi on ne le ferait pas dans notre pays? Et d'ailleurs, pour ajouter un point que j'avais oublié, c'est que au mois d'avril-mai, nous allons mettre sur le marché un crédit auto de 100 voitures dont l'objectif, c'est de permettre à toute femme désireuse de devenir entrepreneur de souscrire un crédit auto et d'obtenir des véhicules pour rentrer dans notre réseau. Parce qu'on veut vraiment construire ces femmes. Il y a des hommes qui ne veulent pas voir leurs femmes aller travailler dans des bureaux, mais alors faites de votre femme des femmes entrepreneurs. Je suis de celles qui disent que l'avenir de l'Afrique appartiendra aux femmes. Ce sont les femmes qui vont réécrire l'histoire de l'Afrique à travers l'entrepreneuriat. Et c'est ça le message que j'ai envie de faire passer à travers mon parcours de l'entrepreneuriat.
Radio Okapi, parité et famille.
Toujours dans l'entrepreneuriat, nous allons écouter Mariam Maïsala. Elle est cultivatrice à Kasongo dans le Maniema. Elle nous fait part dans l'interview que vous allez suivre des difficultés qu'elle éprouve dans son activité et aussi des défis auxquels elle fait face. Elle en appelle à l'égalité des chances pour émerger. Elle s'est confiée à Mathieu Ilunga.
Je suis une agricultrice. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans notre travail. Nos produits sont vendus moins cher sur le marché. Et nous ne sommes pas en mesure, à notre tour, d'acheter des produits manufacturés, car ils sont tellement chers, ce qui ne nous permet pas non plus de subvenir à nos besoins. C'est le mois dédié à la femme, et on parle de parité. Malheureusement pour nous, cultivatrices, nous restons toujours dans la misère. Des fois, c'est le mari qui s'accapare de toutes les recettes de nos produits, pour pour aller les dilapider. Nous, les femmes cultivatrices, sommes déconsidérées. Nous ne sommes pas valablement représentées et personne ne s'occupe de notre situation. C'est comme si nous n'avons pas de dignité. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités du pays qui prônent la parité de bien vouloir promouvoir les femmes cultivatrices ou agricultrices, puisque certains hommes nous déconsidèrent et ne nous respectent pas. Et pourtant, tous, nous sommes aussi importants dans la vie. Nous sommes souvent maltraités dans nos maisons et nos familles. Et la communauté dans laquelle nous vivons ne pense pas aux femmes cultivatrices. Nous demandons ainsi à tous le respect de la parité, car nous tous, ou nous toutes, nous contribuons au développement et qu'on nous donne aussi la chance de faire valoir nos compétences dans la société. Nous ne sommes peut-être pas dans des bureaux, mais nous nourrissons ceux qui sont haut placés, même si nous n'avons pas étudié. Il y a ceux qui ont étudié, mais qui n'ont pas de travail.
Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes sur Radio Okapi et je rappelle que vous suivez le magazine Parité et Famille qui s'intéresse aujourd'hui à la promotion de l'entrepreneuriat et le leadership féminin. André Yokali Moudaba est un homme des lettres et des cultures, professeur d'art dramatique à l'Institut National des Arts, auteur de plusieurs ouvrages dont le tout dernier dédié à la femme vient de paraître aux éditions du Pangolin en Belgique sous les titres Bisonji Biabakaji. Entendez l'arme des femmes. C'est un recueil des 16 nouvelles qui brossent des portraits et décrivent des récits des vies au quotidien et des personnages féminins qui jouent un rôle non négligeable. André Yoka s'exprime sur les leaderships féminins avec une mention spéciale aux femmes qui militent au quotidien pour la survie de la famille. On l'écoute.
La femme a le poids de la vie. La femme a le poids de l'humanité. En même temps, la femme est l'espoir parce que la femme, c'est l'avenir de l'homme, comme disait Malraux. Et donc, c'est tout ça qu'on lit dans le livre. Il y a deux types de femmes dans ce livre. Il y a les femmes qui subissent, qui sont victimes, qui sont écrasées. Mais il y a aux antipodes, comme en contraste, comme en contrepoint, des femmes sans larmes, des femmes qui résistent, des femmes qui prennent leur revanche, parfois même sous la forme de la vengeance, des femmes qui pensent à l'avenir, qui pensent à la nation, qui passent survivre. Et le plus souvent, je prends comme exemple les femmes qui ne sont pas des femmes visibles, mais c'est souvent les héroïnes de l'ombre, les mamans de Pupula, les mamans Malewa, les mamans maraîchères, voilà, les mamans bongolatrices, les mamans cambistes donc. Même les mamans londoniennes, c'est-à-dire les filles de joie, les filles de rue. Toutes ces femmes dont on ne parle pas, mais qui se battent. Vous savez que depuis qu'on a eu la crise des années 74-75, il y a eu un renversement des relations sociales. La prééminence patriarcale est tombée et ce sont les femmes et malheureusement aussi les enfants qui se sont portés en avant. N'est-ce pas les femmes qui vont en Guangzhou? N'est-ce pas les femmes qui vont au Togo? N'est-ce pas les femmes qui vont en Belgique, en France? N'est-ce pas les femmes qui vont maintenant en Turquie? N'est-ce pas les femmes qui circulent jusqu'en Angola pour la survie de la famille? Les enfants aussi, hélas, dans le pire ou dans le meilleur des cas. Et donc, je pense qu'il est temps de rendre femme à ces femmes-là. Je ne parle pas des femmes en vue. Elles sont trop connues peut-être. Mais je parle des femmes qu'on ne voit pas. Vous savez, il m'arrive d'être au carrefour, au grand carrefour de la ville de Kinshasa. Rond-point Gaba, rond-point Victoire, rond-point Kitambo, etc. Regardez le regard des femmes. Je fais cette tautologie exprès. Regardez les femmes dans les yeux. Regardez, c'est tout un discours que ces femmes vous tiennent. Ces femmes tiennent la vie. C'est elles qui nous réveillent le matin. Parce que elles vont très tôt pour préparer la journée, kokanga journée comme on dit dans ce pays. Je les regarde dans les yeux, comment leur regard est profond, interrogateur, interpellateur, douloureux, mais regard plein d'espoir. C'est ça qui m'intéresse.
Si on doit faire une sorte de parallélisme entre les années après l'indépendance, la RDC, pour parler un peu du leadership féminin jusqu'à nos jours, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la femme a pris son avenir à bras les corps?
C'est une bonne question. Je vais être sincère. J'ai eu l'impression que de tout temps, c'est l'homme qui a fait cadeau à la femme de sa promotion. Vous savez, l'indépendance, comme disait Lumumba, ne s'offre pas sur un plateau d'argent, elle s'arrache. Un indice, vous savez qu'au Parlement congolais, me semble-t-il, il paraît qu'il y a 10% de femmes. Le père de Saint-Moulin, qui a fait une étude détaillée, minutieuse, du système des élections, mais surtout du système de l'électorat, ben, s'est rendu compte que les femmes n'ont pas voté les femmes. C'est déjà un indice. Non seulement les femmes n'ont pas voté les femmes, mais souvent quand les femmes ont été promues, c'est sous la dynamique, sous la poussée des hommes. Il est temps que le discours change. Parce que les discours que l'on entend souvent à la radio, à la télévision, des femmes elles-mêmes, qui sont des discours pompeux, cachent mal leur asservissement. Mais il ne faut pas généraliser non plus. Parce que ici et là, il me semble qu'il y a des femmes qui se portent en avant et qui portent le destin de la nation en avant, qui sont en même temps de bonnes mères de famille, qui sont en même temps de bonnes épouses, mais en même temps qui sont exemples de bonnes citoyennes. Ne généralisons pas, ce sont ces exemples-là justement qu'il faut suivre. Mais je termine cette question en disant que moi je regarde nos mamans, nos propres mamans, comment avec peu de moyens elles nous ont éduqués. Moi, je viens pas d'une famille riche, je viens d'une famille moyenne. Mais je vois comment ma mère se battait pour nous envoyer à l'école. Tous les enfants à l'école, jusqu'en Europe, etc. Pour moi, ce sont des saintes. Les saintes ne sont pas seulement au ciel. Souvent, les saintes sont autour de nous. Nous ne les regardons pas. Sainte Adrienne, Sainte Pauline, Sainte Rite, qui les connaît? À peine. Mais ma mère, je la connais. Je sais ce qu'elle a fait pour moi. Je sais ce que ta maman a fait pour toi. Ta maman, les mamans de mes amis qui sont autour de moi, qui ont été nos mamans. Parce que dans notre tradition, la maman de mon ami, c'est ma maman. Eh bien, pour moi, je pèse mes mots. Ce sont des saintes. Et c'est à nous à les consacrer. Parce qu'ils ne seront jamais dans les livres d'histoire.
Donc, ce sont nos héroïnes.
Ce sont nos héroïnes. Ce sont nos exemples. Elles ne seront pas malheureusement dans les livres d'histoire. Il n'y aura pas de statut pour elles. Mais leur statut, leur livre, c'est dans nos cœurs. Et il faut les célébrer tous les jours, 365 jours, pas le 8 mars seulement.
Que doit faire la femme et qu'est-ce que l'homme peut apporter comme pierre pour justement promouvoir les leaderships féminins et permettre à la femme de jouer les rôles qui est les siens?
D'abord, il faut changer de discours. Regardez à l'école les discriminations subreptices qui existent dans l'école, peine sensible entre les garçons et les filles. Il faut commencer par là. Et dans les familles, il faut commencer par là, à donner les mêmes responsabilités aux garçons qu'aux filles. Après, dans la société, il faut que les femmes s'assument. Je pense que nous sommes une société, dans ce cadre-là, qui est assez avancée. J'entends beaucoup de discours, la femme est infériorisée, la femme est arriérée dans l'entreprise, etc. Mais vous n'allez pas dire ça à une femme paysanne qui passe sa journée à nourrir sa famille. Vous n'allez pas leur dire ça. Vous n'allez pas dire à cette femme bongolatrice qui est au coin de la place braconnier. Donc la situation est assez contrastée. Il y a celles qui survivent, struggle of life, qui se battent pour la survie. Celles-là existent comme les Sisyphes féminines, mais il y a celles qui paradent. Celles qui paradent ne m'intéressent pas beaucoup.
Parité et famille.
Vous l'avez suivi, le professeur Yoka parle dans son ouvrage des femmes qui subissent et celles qui résistent. La route vers l'entrepreneuriat n'est pas toujours facile. Nous allons écouter cette fois le témoignage de Nicole Soulou-Chiyoyo. Elle est administratrice de l'hôtel Sultani. Elle est aussi fondatrice du réseau Makutano, un cadre d'échange et des réseautages pour parler business et affaires. Nicole Soulou-Chiyoyo est spécialiste en orthophonie. Elle a eu aussi à gérer les centres hospitaliers Nganda pendant une dizaine d'années. Sa première expérience fut la vente des makala ou charbon de bois aux côtés de sa mère. Elle nous raconte son expérience.
Ma maman vendait du charbon et voilà. Donc, et moi, j'aidais un petit peu ma maman dans ça. C'est que je gardais son commerce, je prenais l'argent chez les clientes et je faisais les comptes après.
Voilà. Est-ce que vous alliez vendre vraiment les makala au marché? Vous salissiez les mains, les habits?
C'est très, très intéressant. C'est qu'elle faisait son étalage de makala. Mm-hmm. Et donc, les mamans savaient que j'étais la petite de maman Léonce. Et donc, ils arrivaient avec leur sou, ils mettaient sous le petit tapis et repartait. Donc moi, je savais simplement qu'elle avait pris 2-3 tas et je regroupais les sous après que je lui remettais au soir. Donc vraiment, quand je n'étais pas à l'école, j'étais devant cet étalage de charbon en train d'essayer de donner les
jeune fille qui vient de Bruxelles, qui voyage souvent, qui va en Europe, qui a un papa médecin connu et puis pendant qu'elle doit peut-être aller s'amuser avec les amis, non, elle choisit plutôt d'aller assister sa maman.
Oui,
parce
que je trouve qu'on n'était que 3 et puis on était 4 avec mon frère, donc pas beaucoup et puis ça m'amusait aussi.
Ça
plaisait, pour la famille. Rapportait, et puis elle était fière d'avoir comme ça à la fin de la journée, je donnais vraiment mon tas sans avoir rien perdu, et puis c'est une belle petite responsabilité. Je pense d'ailleurs que je prends beaucoup de cette première période, d'être tout de suite responsabilisée très tôt, en disant ils étaient tellement sûrs que ça se passerait très bien, qu'à la fin de la journée tout serait correct, que finalement ça vous nourrit de confiance, et je pense que j'ai grandi avec ça, sans être impressionnée par autre chose que ce que je savais faire, et j'ai grandi dans cette confiance absolue de mes parents, de dire tu peux y arriver, on peut te faire confiance, tu peux faire les choses. Et donc je voudrais d'ailleurs faire un clin d'œil aux parents de responsabiliser très très tôt les enfants, parce qu'effectivement ça reste, ça donne un axe en tout cas aux enfants.
Mais aujourd'hui les enfants choisissent ce qu'ils veulent faire quand on leur dit par exemple Makala, ou vous allez dans la petite boutique au coin de l'avenue, hein, une boutique familiale, ils disent non, on va me voir très complexé pour rien. Vous dites quoi à ces jeunes là
Mais il suffit de regarder les parcours de beaucoup de personnes. Je pense que c'est des étapes. Je comprends pas pourquoi il y aurait avoir de la honte. Avant, moi, je suis très, très heureuse. Je vous dis avec beaucoup de plaisir parce que j'en ai tiré tellement, tellement de choses. Il n'y a pas un axe pour gagner l'argent qui soit plus important qu'un autre. Tant que c'est propre, tant que c'est correct, tant qu'il y a du travail derrière, tant qu'il y a de la sueur derrière. Au contraire, on devrait en être tout à fait fiers.
Fiers, absolument.
Ouais, voilà.
Nicole Soulou, administratrice de l'hôtel Sultani et fondatrice du réseau Makutano, au micro de Tina Salama.
Radio Okapi.
Comment promouvoir les leaderships féminins en politique? Rendons-nous à Kisangani, où les plans d'action d'accompagnement des femmes de la province de la Tchopo, dont le processus électoral en cours a été validé par le groupe de travail Genre et Élections. Cette structure, appuyée par la MONUSCO, vise l'amélioration de la participation de la femme dans les instances de prise des décisions. Godlive Omondo nous en dit plus dans ce reportage.
Une centaine de femmes issues notamment des partis politiques, de la société civile et des femmes entrepreneurs ont pris part à cette séance de travail. Il a été question de peaufiner des stratégies pour mobiliser les hommes et les femmes à la promotion du leadership féminin. Aucune femme n'a été élue aux élections précédentes pour représenter la province au niveau de l'Assemblée nationale et provinciale. Pour le GTGE, en dehors du plaidoyer pour la nomination des femmes au poste de responsabilité, celles-ci doivent également être compétitives pour bénéficier de la confiance de la base aux prochaines élections. C'était une occasion pour le nouveau vice-maire de la ville, la première femme à être nommée à ce poste depuis la Grande Orientale, à solliciter l'adhésion des femmes intellectuelles au parti politique de leur choix. Pour Eugénie Wandandi, c'est le seul moyen de briguer un mandat politique au pays.
Nous retrouvons beaucoup de femmes qui ne sont pas trop intellectuelles dans des partis politiques. Toutes les femmes qui ont étudié suffisamment, elles se versent dans la société civile. Nous réclamons toujours à celles qui sont dans la société civile de venir se joindre à nous dans la politique selon la loi électorale. Il faut ne fût-ce qu'être gradué. Mais s'il faut compter le nombre de femmes graduées dans des partis politiques, elles ne sont pas nombreuses. Or, le seul moyen que la femme puisse briguer mandat à l'élection, c'est le parti politique. Elles doivent déjà aussi chercher comment nous appuyer en venant nombreuses adhérer dans l'un des partis selon leur choix et selon l'importance qu'ils vont donner à l'idéologie.
Les participants à cette séance de travail encouragent le GTGE pour cette nouvelle vision visant la promotion du leadership féminin. Suivant tour à tour Pierre Kibaka, membre de la société civile, et Chantal Lombalé, aspirante candidate gouverneur aux prochaines élections dans la Tchopo.
Il faudrait qu'elles aient un engagement ferme. Il faudrait qu'elles sachent que les élections de 2018, avec cette innovation de cette représentativité, il faut vraiment des stratégies très fortes pour que les femmes puissent atteindre les objectifs qu'elles se sont atteints. Sinon, on risque de connaître les mêmes fiascos qu'on a toujours connus dans la Tchopo.
Des mamans ont exprimé leur ras-le-bol et puis nous sommes très très contentes de l'engagement des femmes et puis nous sommes déterminés que cette fois-ci, qu'il neige, qu'il pleuve, la femme sera élue dans la province de la Tchopo. Et nous sommes déterminés à mener cette lutte ensemble. Nous sommes unis pour aller de l'avant.
Les femmes réunies dans le groupe de travail genre et élection sont plus que déterminées à réussir le pari de la représentation de la femme dans le poste de responsabilité dans la province de la Tchopo. C'est ce qui illustre même leur slogan 2018 appelant les hommes et les femmes de la Tchopo à voter femmes.
Parité et famille, c'est fini pour aujourd'hui. Nous parlions de l'entrepreneuriat et du leadership féminin en ce mois dédié à la femme. Merci à toute l'équipe qui a participé à la production de ce magazine. Godlive Omondo, Nana Bolojoa, Tina Salama, Mathieu Ilunga et Jean-Marc Matwaki. Ce magazine a été mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Je suis Thérèse Kankuntamboué. Au revoir et à la prochaine.